Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la province sud, chef de file des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation alors que l'actualité calédonienne est dense une fois encore. Nous attendons votre analyse sur un certain nombre de sujets, à commencer bien sûr par les élections municipales dont le second tour avait lieu dimanche dernier. Alors l'un des enseignements de ce scrutin, c'est la victoire des listes soutenues par les loyalistes dans l'agglomération où vous faites carton plein avec les listes que vous souteniez à Nouméa, mais aussi à Dimbéa, au Mont-d'Or, à Païta. Comment est-ce que vous interprétez ces résultats ?
Je pense qu'il y avait vraiment un message post-émeute, puisqu'en fait c'est la première élection réellement post-émeute. Il y avait eu les législatives pendant les émeutes. De dire on veut un message clair, on veut envoyer un message pour dire qu'on ne veut pas de la violence d'une part, et d'autre part qu'on la condamne. Et on apporte et on mettra en œuvre plus de sécurité pour les Calédoniens. Donc je pense qu'il y a ce message-là. Il y avait évidemment un message également sur Bougival, puisque alors c'était pas forcément notre volonté d'en faire un référendum pour ou contre Bougival, mais ça a été annoncé par le FLNKS de dire que ce sera un référendum pour ou contre Bougival.
Alors, vous dites que c'était un message d'apaisement, finalement, après les émeutes. Pourtant, certains estiment que ce sont les radicalisés qui ont gagné. C'est la droite la plus dure de Nouvelle-Calédonie qui s'est imposée. Comment est-ce que vous interprétez ces différentes interprétations ?
Aucun de nos candidats n'a tenu de discours dur. Alors, je comprends la difficulté de ceux qui perdent et d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais je crois simplement qu'il y a eu un message de clarté. On a été limpide d'une part dans nos prises de position pour condamner la violence, pour proposer des choses pour apporter de la paix et de la sécurité aux Calédoniens. Et ensuite, il y a aussi une valorisation de l'union dans le camp non-indépendantiste. C'est-à-dire que concrètement, tous ceux qui ont été en dehors de l'union ont été sanctionnés. Je crois que la situation en Nouvelle-Calédonie est sur le plan économique et sur le plan sociétal et sur le plan électoral nous impose d'être unis. Et je pense que tous ceux qui n'ont pas fait cet effort d'union, finalement, ont été sanctionnés.
On y reviendra, mais d'abord sur cette question référendum pour ou contre Bougival. Donc les loyalistes ont affirmé le soir du scrutin que 2 électeurs sur 3 ont validé l'accord de Bougival. Quelques jours après, le FLNKS a affirmé que les forces indépendantistes opposées à Bougival sortent largement renforcées de ce rapport de force électorale face à l'UNI. Alors qu'est-ce qui a gagné finalement ? C'est pour ou contre Bougival ?
En fait, malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut affirmer plein de choses, mais les chiffres, et c'est assez facile, puisqu'en fait, le FLNKS a fait un communiqué de presse avant l'élection qui disait, d'abord, cette élection est une élection pour ou contre Bougival. Ils ont fait un autre communiqué de presse pour annoncer toutes les listes qui étaient des listes soutenues par le FLNKS et qui étaient des listes contre Bougival. Donc c'est du coup assez facile de calculer le résultat. Et donc ces listes FLNKS et qui étaient opposées à Bougival font en tout 22%. Alors eux, ils y ajoutent tout un tas d'autres listes, je veux bien l'entendre, et on a fait ce calcul-là aussi, puisqu'il y a évidemment, on est dans des élections municipales, tout un tas de listes qui n'étaient pas positionnées pour ou contre Bougival. Si on ajoute toutes ces listes-là, on peut rajouter 12%, donc on arrive au mieux à 34% contre Bougival. Ça veut dire 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas positionnés clairement contre Bougival, qui donc ont soutenu Bougival. Donc je crois que c'est pas nous qui avons voulu en faire un référendum, c'est le FLNKS. Quand on impose qu'une élection constitue un référendum, on en accepte le résultat, et le résultat est très clairement dans ce sens. Il y a un autre élément qui est important dans le camp indépendantiste, c'est que l'écart entre l'UNI et l'UC se restreint à l'avantage de l'UNI, c'est-à-dire que l'UNI rattrape l'écart de voix qu'il y a entre l'UC et l'UNI, se réduit au bénéfice de l'UNI. Et ça, je pense que c'est un message qui est important, parce que c'est aussi un message de dire que dans le camp indépendantiste, en tout cas c'est comme ça qu'on le reçoit, il n'y a pas de prime à la violence. Et on constate d'ailleurs qu'il y a pas mal de communes dans lesquelles Christian Théin est allé lui-même faire campagne, dans lesquelles finalement le résultat est le moins bon pour le FLNKS.
Mais d'ailleurs on voit très bien que dans l'interprétation du scrutin, le FLNKS a un adversaire clair, c'est l'UNI, et que donc la division dans le camp indépendantiste est encore aggravée par ces élections municipales.
C'était un vrai pari pour l'UNI de soutenir Bougival d'abord. Ils ont été courageux parce qu'ils ont assumé leur parole jusqu'au bout. Ils ont demandé à l'État et aux représentants, enfin aux parlementaires, de laisser les Calédoniens s'exprimer. Et le FLNKS pensait les faire disparaître de la surface électorale de la terre de Nouvelle-Calédonie. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et ce pari pour l'UNI, en tout cas, il me semble gagné. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, le FLNKS non seulement n'a pas le monopole du monde indépendantiste, mais à contrario, l'UNI reprend de l'espace sur un positionnement qui était courageux.
Alors, chez les partisans de la France, on en parlait, il y avait des listes d'union loyaliste, mais l'union n'a pas été totale. Hein. Il y a eu quelques candidatures à part, on ne va pas dire dissidentes, mais on pense notamment au Monde d'Or. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ça aurait pu être évité, ce combat fratricide, entre guillemets, en tout cas cette concurrence entre des listes partisans de la France et partisans de Bougival la plupart du temps?
Oui, je pense que, encore une fois, dans la période qu'on vit et vu les difficultés de la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours mieux d'être unis. Et c'est parfois même, dans certains endroits, indispensable. Vous citez des endroits dans lesquels la concurrence ne faisait pas prendre le risque d'avoir l'élection d'un indépendantiste. C'est, dans ces cas-là, dommageable, mais finalement, c'est la démocratie. Là où c'est le plus ennuyeux, c'est quand ça fait élire un maire indépendantiste. Et malheureusement, ça a été le cas à la fois où Steven Skaouda a été élu avec les voix des indépendantistes parce qu'il était dans un duel avec Florence Rolland qui représentait les loyalistes et le Rassemblement. Et c'est le cas à Bouraï, où le maintien de la liste de Jean-Paul Roblin fait gagner la liste de Patrick Roblin, qui lui arrive minoritaire dans tous les bureaux de vote de Bouraille, à l'exception du bureau de vote de Poté qui regroupe les tribus de Bouraille. Donc là, dans ces moments-là, c'est regrettable. Ça aurait pu malheureusement être aussi regrettable à Païta. La division n'a pas permis à Milakoulou Toukoumouli de l'emporter, tant mieux. Antoine Romain l'a emporté. Il sera élu cet après-midi maire dans le cadre du conseil municipal. Mais je crois que c'est une leçon qu'il nous faut retenir pour la suite. Je ne sais pas, on en reparlera sans doute, mais je ne sais pas quand les élections provinciales auront lieu. Mais je crois que on a une obligation d'union pour ces provinciales. On a été concurrents, on porte des choses dans les municipales qui sont un peu différentes. Pour les provinciales, on n'a pas le luxe de la division.
L'union est indispensable et vous avez commencé déjà à travailler dessus, à essayer de favoriser cette union pour les provinciales ou...
Oui, évidemment, on a des discussions avec ceux qui étaient pas avec nous au municipal. Ces élections viennent d'avoir lieu. Je crois qu'il faut que la poussière redescende. On continuera de l'avoir. En tout cas, nous, on fera tout ce qui est possible pour rendre cette union possible.
Alors, les Calédoniens ne s'étaient pas exprimés depuis longtemps, puisqu'on a l'habitude de voter tous les ans, voire plusieurs fois par an. Globalement, à l'issue de ce scrutin, vous avez l'impression que les partisans de la France sortent renforcés? On parlait à l'issue des législatives de 50%, 50-50. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en revanche, les partisans de la France sont plus nombreux, peut-être comme l'avaient prouvé les trois référendums?
Oui, concrètement, là, si on fait le total des voix non indépendantistes et le total des voix indépendantistes, la voix non indépendantiste est clairement majoritaire. Mais on a quelques voix au centre, qui ont parfois voté pour des indépendantistes, parfois pour des non-indépendantistes, d'ailleurs plus souvent pour des indépendantistes que pour des non-indépendantistes, qui font la bascule. Donc clairement, la voix de ceux qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste française doit être unie et forte.
On constate aussi une contre-performance justement de la voix médiane. Elle est surtout représentée par Calédonie Ensemble et par l'Éveil océanien. Quelques personnalités aussi, ça veut dire que c'est malgré tout la défaite des modérés. On parlait des radicalisés tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut les appeler les modérés, mais de cette troisième voie, elle attendait plus de ces élections municipales quand même.
Je crois que c'est la défaite de l'ambiguïté. C'est-à-dire que je refuse cette... Il n'y a pas des modérés et des radicaux. Il y a des gens qui ont été clairs dans le discours, qui disent ce qu'ils veulent pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'ils veulent pour la commune quand c'est des municipales, ce qu'ils veulent pour la province, ce qu'ils veulent pour le gouvernement. Il n'y a pas d'ambiguïté, on n'essaye pas de jouer sur plusieurs tableaux pour un poste, un vote, enfin bon, non, on a une ligne qui est claire, qui est assumée, et en face, on a malheureusement la défaite. Malheureusement, heureusement pour nous, mais en tout cas, on a la défaite de l'ambiguïté. C'est ce qui s'est passé est quand même important. Si on prend Nouméa, par exemple, en théorie, les voix de Velma Falaeo et de Philippe Dunoyer auraient dû les conduire à faire entre 17 et 18% au premier tour des municipales. Ils font 11%. Ça veut dire que concrètement, la mayonnaise ne prend pas, d'une part, entre eux, et d'autre part, qu'il y a un affaiblissement par rapport aux dernières élections. Je pense que, vous savez, on ne peut pas dire, enfin, aller voir un électorat en lui disant non, on est non-indépendantiste, ou on ne veut pas l'indépendance maintenant, et voter pour l'indépendance association qui a été proposée par Manuel Valls. Quand on vote l'indépendance association proposée par Manuel Valls, c'est qu'on veut l'indépendance. On ne peut pas aller après dire aux électeurs, parce qu'on sait qu'ils sont majoritairement non-indépendantistes, qu'en fait, on ne veut pas l'indépendance. Donc je crois qu'à un moment donné, et je suis assez impressionnée par ce qui s'est passé dans l'électorat. Les électeurs ont été... D'abord, on dit souvent les électeurs n'ont pas de mémoire. Ils ont eu de la mémoire. Ils se sont rappelés de ce qui s'est passé au sénatorial. Ils se sont rappelés de qui a trahi le camp loyaliste, qui a permis d'avoir l'élection de Robert Rowy, qui est quand même le plus radical, on l'a vu pendant les négociations de Bougival, le plus radical d'entre tous, et pourtant on n'avait pas que des tendres, qui l'ont fait élire, et les électeurs n'ont pas oublié. Les électeurs n'ont pas oublié les gens qui ont été absents pendant les émeutes. Ils n'ont pas oublié les gens qui ont voté l'indépendance association proposée par Manuel Valls. Je pense que c'est important de retenir ça, parce qu'il y en a qui ont cru qu'on pouvait faire des choses, et puis qu'on allait oublier, on allait faire effacer tout ça et aller aux élections avec en étant vierge de tout ce qu'on avait fait avant. Ben non, ça n'existe pas.
Et donc, finalement, c'était des élections, on dit toujours des élections de proximité, c'était des élections très, très politiques. Bon, c'est toujours le cas en Nouvelle-Calédonie. Mais on a vu aussi l'émergence de personnalités de la société civile où qu'on a de la peine à identifier complètement. On pense à Conné, où c'est quand même une victoire, je pense, inattendue. À Point-d'Imier, où Paul Néoutine est mis en difficulté. Comment ça se fait, d'où ça vient l'émergence de ces personnalités?
D'abord, je veux dire qu'ils n'ont pas fait campagne avec eux, ils n'ont pas fait campagne avec l'étiquette des loyalistes. Je pense que concrètement, ils sont en danger s'ils le font, donc ils ne le font pas. Et puis en plus, ils ont fait des listes d'ouverture citoyenne, c'est-à-dire qu'ils ont mis des gens sur leur liste de différentes obédiences. C'est surtout, à Conné en tout cas, la défaite des indépendantistes. À Point-d'Imier, le fait que M. Watanabe arrive devant Paul Néaoutine au premier tour, c'est un signal très fort. C'est un signal aussi, vous disiez que c'est une élection politique, évidemment que c'est une élection politique. En Nouvelle-Calédonie, toutes les élections sont politiques. Mais il y a aussi un message de proximité, et il y a aussi un message pour dire on en a assez de l'immobilisme, on a envie que les choses bougent, et ceux qui ont été élus à Conné pour M. Samadi, et qui a été devant Paul Néaoutine pour M. Watanabe à Point-d'Imier, ont porté ce changement. Et je pense que c'est aussi une alerte vis-à-vis des indépendantistes ou de certains indépendantistes qui se contentaient d'avoir un électorat acquis et qui se sont fait un peu secouer.
D'ailleurs, on n'a jamais vu un tel renouvellement, je crois, de maires en une seule élection. 22 maires nouveaux, c'est du jamais vu.
Oui, c'est aussi un signal. Ça veut dire que effectivement, quand les choses n'ont pas bougé, eh bien, les gens n'ont pas de peur de les renouveler.
Alors, dans un autre domaine, après ces élections municipales, l'autre actualité de la semaine, ça a bien sûr été le début de l'examen du projet de loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale, un texte qui a été rejeté hier par la commission des lois de l'Assemblée. Est-ce que ça veut dire que c'est plié et que la réforme constitutionnelle ne sera pas adoptée? Réforme qui doit inscrire dans la Constitution l'accord de Bougival et son accord complémentaire.
Alors non, c'est pas plié, parce que la commission ne rend qu'un avis, donc c'est indicatif. Mais objectivement, quand la commission donne un avis défavorable, c'est assez mal engagé pour la séance publique. Donc évidemment, on aurait préféré l'inverse. Mais les choses ne sont pas pliées parce qu'il y a en ce moment des discussions au plus haut niveau de l'État, le président de la République, le Premier ministre, qui ont pris le dossier avec les présidents de chambre, avec les chefs de groupe des différents mouvements politiques nationaux, pour essayer de voir comment on en sort. Il y a plusieurs options, évidemment. Il y a le fait que on arrive à convaincre une majorité à l'Assemblée de finalement voter pour ce texte, et du coup, il irait au Congrès de Versailles et finirait son chemin.
– Sont les socialistes et le Rassemblement National éventuellement qui
pourraient
être vaincus ?– C'est ça,
ce sont des abstentions. Les communistes en oublient, les écologistes, ça paraît assez mal parti aussi. Concrètement, c'est le Parti Socialiste et le Rassemblement National qui pour l'instant s'opposent, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté, mais pour lesquels il y a un travail, en tout cas pas à notre niveau, mais à plus haut niveau, pour voir s'il est possible de trouver un chemin. Encore une fois, c'est assez mal engagé, donc on ne va pas considérer que c'est la solution la plus probable.
On le saura la semaine prochaine avec l'examen le 1er avril.
Effectivement, à partir de mercredi, on le saura assez rapidement. Si effectivement ce texte est rejeté en séance publique, là aussi, il y a encore plusieurs options. Il y a l'option de dire, ok, le texte est rejeté tel quel, mais on doit poser la question aux Calédoniens. Et donc on en revient à une option qui avait été envisagée un temps, puis mise de côté parce que les socialistes ne la souhaitaient pas, qui est de consulter les Calédoniens. Est-ce qu'on peut obtenir une adhésion du Rassemblement National, par exemple, sur la consultation des Calédoniens?
Parce que oui, ça aussi, c'est le Parlement qui a le droit de décider,
c'est le Parlement
qui a le droit de voter.
Mais c'est un projet de loi organique, donc c'est un peu moins lourd qu'un projet de loi constitutionnelle. Ensuite, il y a la volonté claire, hein, du Premier ministre et du Président de la République, de dire on ne peut pas aller aux élections avec un corps électoral gelé. D'une part parce que d'un point de vue démocratique c'est insupportable, mais d'autre part parce que c'est la victoire de la violence, c'est-à-dire que ceux qui ont tout cassé le 13 mai dernier pour obtenir le non-dégel du corps électoral, c'est en allant aux élections avec un corps électoral gelé, c'est leur dire en fait vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Donc ça c'est parfaitement inacceptable, et je pense que le président de la République en est conscient. Donc il y a une option dans laquelle il remet sur la table directement à Versailles le texte qui a été rejeté, qui a été accepté à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui a fait l'objet des actions du 13 mai. Donc il a la possibilité de dire...
Qui a été suspendu en juin 2024.
Qui a été simplement suspendu, donc qui pourrait être redéposé à Versailles. Et puis il y a des options intermédiaires où on se met d'accord sur un corps électoral partiellement ouvert. Moi, je suis totalement opposée à ce qu'on inscrive que les natifs, parce que il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui méritent aujourd'hui de voter. Et puis, il y a l'option où il ne se passe rien et où on doit aller aux élections avec un corps électoral gelé, ce qui, pour nous, est totalement inacceptable.
Mais alors, on a envie de vous dire, malgré tout, comment pouvez-vous vous y opposer? Si les élections provinciales sont organisées avec un corps électoral gelé, alors on entendait hier... À l'Assemblée nationale, en commission des lois, Nicolas Mézor dire ça va très mal se passer. Mais objectivement, on a les moyens de s'y opposer. Vous n'allez pas descendre dans la rue et faire ce qu'a fait la CCAT en mai 2024.
Nous, on va pas détruire la Nouvelle-Calédonie. Hein. Je crois qu'on ne peut pas condamner la violence et faire la même chose. Donc c'est clairement pas notre méthode. On va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en termes de discussion. Et on va pas aller brûler des entreprises. Par contre, clairement, on va pas non plus laisser faire les choses comme ça. Donc, on va aller jusqu'au bout de toutes les options qui s'offrent à nous, sans rentrer dans le détail aujourd'hui. On en est encore à la négociation, on en est encore à la discussion, à trouver des solutions. Et je veux croire dans le fait que ce sujet soit traité au plus haut niveau nous amène à trouver des solutions.
Les élections provinciales en juin, si c'est le cas. Vous serez prêt, alors on parlait de l'Union tout à l'heure, mais sur quel projet? Ce serait dans l'optique de renégocier Bougival ou de vendre Bougival à l'occasion de ces élections provinciales?
Ça dépend. Concrètement, si ces élections ont lieu avec un corps électoral gelé, pour nous, il n'est pas question de continuer à accepter une quelconque concession de celles qui ont pu être faites au moment de Bougival. Si par contre On est sur une recherche de consensus, des élections qui se font sur la base d'un accord, même s'il est partiel. Les discussions reprendront et Bougival, effectivement, sera soumis aux Calédoniens. Mais il n'est pas question qu'on nous dise « la violence a gagné, on va aux élections avec un corps électoral gelé, et puis en plus, vous acceptez tout ce que vous avez accepté dans Bougival ». Ça, c'est non, je le dis très clairement. Il n'y aura plus de tout ça.
Il y a des contacts aujourd'hui encore entre vous, ou est-ce que les élections municipales font que, entre les différents groupes politiques, il n'y a pas eu de discussion véritablement pour poursuivre ce que vous avez fait à Paris et à Élysée-Oudinot ?
Alors, il n'y a clairement pas de discussion. Alors, on se voit régulièrement, évidemment, puisqu'on passe beaucoup de temps ensemble au Congrès, notamment. Mais il n'y a plus de discussion sur l'avenir institutionnel. Aujourd'hui, enfin, il faut dire les choses quand même, on a 5 groupes politiques sur 6 qui défendent Bougival. Tout le monde a été auditionné devant la commission des lois. Et dans les auditions, les choses sont très claires. Tout le monde dit « laissez les Calédoniens choisir leur destin ». Ce qui est quand même absolument hallucinant, c'est que ce sont les partis politiques nationaux qui défendent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, LFI et le Parti Socialiste, même si c'est moins clair pour le Parti Socialiste, qui refusent aux Calédoniens de choisir leur destin. C'est-à-dire que concrètement, en ne votant pas ce projet de loi constitutionnelle, ils refusent aux Calédoniens de décider eux-mêmes de leur destin. Ils disent « Non, mais en fait, on sait mieux que vous ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc on va, votre accord, là, il ne nous convient pas. Ça fait des mois qu'on vous dit « Trouvez un accord, trouvez un accord, trouvez un accord. » On trouve un accord. « Ah oui, mais non, mais vous n'avez pas bien discuté, vous n'avez pas bien négocié, donc on va faire à votre place. Et puis surtout, on va vous empêcher de vous exprimer. » Enfin, c'est néocolonialiste comme mode de fonctionnement. C'est-à-dire que concrètement, on nous dit « Vous êtes trop nuls, vous n'êtes pas capable de décider tout seul. » Ben non, enfin, là, on... Donc, globalement, la majorité des élus du Congrès, la majorité des groupes politiques veut que les Calédoniens s'expriment. Si les Calédoniens disent oui à Bougival, ben Bougival doit continuer. Si les Calédoniens disent non, ça s'arrête et il faut trouver autre chose.
Alors, les Calédoniens sont exprimés lors des municipales aussi, on en parlait il y a un instant. Est-ce que ce résultat a été suivi à Paris ? Et est-ce qu'il peut avoir des conséquences éventuellement sur l'attitude des parlementaires ? Est-ce qu'ils peuvent essayer de tirer les leçons de ce qu'ont dit les Calédoniens à l'occasion de ce scrutin ?
Pour l'instant, vu ce qui s'est passé en commission, ils n'ont pas l'air d'en tirer beaucoup de conclusions, en tout cas pas les bonnes.
Ils n'ont pas eu le temps encore de détailler les résultats,
mardi, peut-être. Effectivement, peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps de regarder, mais... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute si on regarde les chiffres et avec un peu d'attention et qu'on n'écoute pas seulement les conclusions qui ne sont absolument pas basées sur des chiffres du FLN. Si on regarde les chiffres, les choses sont très claires. C'est pas nous qui avons voulu en faire un référendum pour ou contre Bougival, c'est eux. Ils ont dit, voilà, on veut en faire un référendum contre Bougival, et voilà les listes qui seront contre Bougival. C'est limpide, hein. Une fois qu'on fait les calculs, on se rend quand même bien compte qu'ils n'ont pas gagné. Donc, moi, j'espère que Paris aura pris le temps, pour la séance publique, de regarder ces chiffres, de prendre en compte la volonté des Calédoniens de s'exprimer sur leur avenir, et nous laissera au moins décider nous-mêmes.
Vous dites que les plus hautes autorités de l'État s'intéressent au sujet. On sait qu'il y avait une réunion mardi soir à l'Élysée. Ça veut dire que vraiment le président de la République, le Premier ministre notamment, et le président du Sénat et de l'Assemblée continuent à suivre de très près le dossier calédonien malgré ce qui se passe ailleurs en métropole.
Oui, de très près. Enfin, je pense que personne n'en doute ici. On a des contacts étroits avec ces quatre personnalités qui sont le plus haut niveau de l'État. On essaye tous de trouver des solutions. Voilà.
Vous restez... optimiste, évidemment, pour les prochains mois. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes et on imagine que les Calédoniens doivent être un peu inquiets devant ces un pas en avant, deux pas en arrière. Ils sont peut-être un peu perdus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour...
Ils sont parfois un peu découragés, surtout, parce qu'effectivement, ils ont eu la satisfaction qu'on signe un accord et ils ont la satisfaction du résultat de ces élections municipales. Et puis, ils se rendent compte qu'à Paris, on leur dit « Bah non, en fait, on veut que vous restiez dans la situation dans laquelle vous êtes. » J'entendais le monde économique s'exprimer, notamment sur vos ondes ce matin. Le monde économique va faire quoi ? Vous croyez qu'ils vont embaucher ? Vous croyez qu'ils vont investir ? Si Bougival n'est pas voté et si on reste dans cette espèce de glaciation dans laquelle on est, où on n'a aucune visibilité ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, on a perdu 15 000 emplois. Moi, je le vois très concrètement dans les services qui sont proposés par la province. On a plus de demandes de bourses, on a plus de demandes d'aide médicale. On a une situation sociale qui est extrêmement grave. Et donc, on fait quoi? On dit, attendez encore des mois et des mois, parce qu'il va falloir d'abord faire les provinciales, puis après, on va recommencer. Parce que si on fait ça, on revient comme en 2019. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on reprend la situation que Gérald Darmanin a récupérée, on recommence à zéro avec des gens qui ne veulent pas parler, des gens qui veulent parler, des gens qui veulent peut-être parler, qui parlent d'abord puis qui s'en vont, et on y repasse 5 ans. Mais quel enfer! Quel enfer pour le monde économique! Quel enfer pour les Calédoniens! Donc, je veux croire dans l'intelligence des parlementaires. On a eu, nous, sans s'envoyer de fleurs tout seul, mais enfin, on a quand même été capable de trouver un accord. J'espère que les parlementaires nous suivront.
Le pacte de refondation, vous parliez du milieu économique, ça va dans le bon sens quand même. Ça va permettre de donner un peu une bouffée d'oxygène à la Calédonie, au monde économique.
Oui, clairement, ça permet d'avancer, même si tout n'est pas encore calé, mais ça permet au moins d'avoir des investissements. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont très attendues et qui doivent arriver vite maintenant. C'est notamment la reprise de PRNC, sur laquelle on arrive au bout du bout maintenant des négociations, et l'échéance est dans quelques jours. Je pense que ça aussi, ça va donner de l'air. Concrètement, c'est 1400 emplois directs, 1400 emplois indirects. Ce sont des entreprises qui ne vivent que grâce au travail qui est mené là-bas. Et ce sont des entreprises qui, tout simplement, hésitent à investir en ce moment parce qu'elles ne savent pas si PRNC va survivre ou pas. Et donc, déjà, si on en avait une qui était complètement sauvée, ce serait bien. Après, la SLN est en cours également, et KNS avec un peu de retard, mais ça donnerait un vrai souffle.
Le repreneur de PRNC est toujours partant, a priori si...
Oui, pour l'instant, oui. Ça continue, je crois que ça avance plutôt bien. J'ai encore un échange avec le CIRI, qui est l'organisme de l'État qui gère cette reprise la semaine prochaine. On a la deuxième lecture des exports de minerais qui passe mardi au Congrès. Tout ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'on conclue.
C'est sur ces bonnes nouvelles que nous allons refermer ce magazine de Transparence. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci.